sur Radio Libertaire, dans l'émission documentaire de l'Association des cinéastes documentaristes, ADOC, on a déjà traité le sujet. Tous les premiers dimanches du mois, depuis novembre 2019, nous vous proposons de passer une heure et demie ensemble autour d'un sujet documentaire avec plusieurs films qui abordent ce sujet, chacun à sa manière, de façon singulière, selon les différents réalisateurs qui se sont emparés de ce sujet. Aujourd'hui, premier dimanche d'octobre, c'est notre 10e émission dans le studio de Radio Libertaire en direct. Et on est vraiment très très heureux d'être là, ensemble, masqués et respectant les distances, bien sûr, mais quand même, ça fait du bien de se retrouver. Alors, aujourd'hui, le thème, le sujet que nous avons choisi d'aborder dans cette émission, nous l'avons intitulé « Pas en notre nom ». Qu'est-ce qui motive les cinéastes documentaristes à se faire les porte-parole d'hommes et de femmes qui s'insurgent contre des politiques qu'ils ne peuvent pas cautionner ? On va discuter de ce vaste sujet ensemble avec Daniel Kupferstein, qui est là avec nous dans le studio. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Donc Daniel, avec son film « Pas en mon nom », qu'il a terminé en 2019, et où il va à la rencontre de Juifs qui se désolidarisent de la politique d'Israël. On a aussi avec nous Muriel Cravatte. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Qui, elle, a réalisé « Demain et si loin », qui est sorti aussi en 2019 et qui commence à vivre sa vie de film vers les spectateurs. Et elle a accompagné les bénévoles qui bravent la montagne et la loi pour accueillir des migrants à la frontière italo-française, franco-italienne.
Ils ne bravent pas la loi, ils essayent de la faire respecter.
Bravo, c'est
on y
absolument ce dont on va parler aujourd'hui. Le rapport à la loi et la façon dont on s'y oppose ou on la respecte alors qu'on est mis au banc. Et nous avons aussi avec nous Philippe Borel, mais au téléphone, parce que lui n'était pas à Paris aujourd'hui. Et c'est une grande première pour nous d'utiliser la ligne de téléphone du studio de Radio Libertaire. Et on espère que ça va marcher, mais c'était vraiment une très très bonne occasion d'utiliser cette possibilité. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Génial, ça marche, ça marche, on t'entend. Et donc Philippe Borel, qui lui a réalisé un film qui a encore un titre proche carrément, qui est le titre qu'on a repris pour notre émission « Pas en notre nom ». Mais c'est un film qu'il a tourné dans les années 2004-2005, qu'il a fini en 2006, et où il se faisait le témoin des soldats américains refusant d'aller faire la guerre en Irak. Donc vous voyez, on a trois films qui vont nous emmener dans des débats passionnants et dans des causes très très diverses, mais qui ont des points communs, et c'est là qu'on va essayer de s'interroger ensemble, de discuter. Le principe de l'émission... on est sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et donc, on a cette liberté de proposer ce qui nous tient à cœur. On a envie de parler de cinéma documentaire, évidemment, de films qui intéressent notre société, qui nous font réfléchir en tant que citoyens. Et l'idée, c'est d'essayer de dialoguer ensemble. Donc, on va peut-être se couper la parole certaines fois, mais c'est le jeu. Nous sommes cinq membres d'ADOC, toutes réalisatrices, à avoir préparé et à animer cette émission. Avec moi, Anne Galland, il y a Bernadette Mermier.
Oui, bonjour.
Samia Djedaï.
Bonjour.
Et Caroline Kim Morange à la technique. Voilà, donc pour commencer cette première partie de l'émission dans laquelle on va vous présenter quand même les trois films dont on qu'on a choisi pour aujourd'hui, on va commencer par le film de Daniel Kupferstein, Pas en mon nom, donc, qu'il a fini il y a assez peu de temps, que vous allez pouvoir voir à Paris bientôt. On vous donnera toutes les infos à la fin de l'émission. Et plutôt que moi de résumer ce film, parce que en fait je ne ferai que lire ou redire ce que lui, Daniel, a écrit, ou ce qu'il dit très très bien en introduction de son film, et qui donne les clés, comme il dit, de cette réalisation. Donc Caroline, extrait numéro 1.
Pour moi, cette photo représente mes origines. Elle a été prise à Paris en 1942. Mon père est à droite, à côté de son frère et de ses deux sœurs. Tous portent l'étoile jaune, imposée par l'Allemagne nazie en étroite collaboration avec le gouvernement de Pétain. Un signe discriminatoire juste avant les grandes rafles et la déportation. Aujourd'hui, en France, lorsque les conflits violents reprennent au Proche-Orient, les personnes d'origine juive, comme moi, sont appelées à soutenir inconditionnellement l'État d'Israël. Pourtant, nous sommes un certain nombre à refuser de nous enfermer dans cette assignation communautaire, tout en craignant le développement de l'antisémitisme. Alors voilà pourquoi je suis allé à leur rencontre.
Le tout début du film de Daniel, Pas en mon nom, et je vous dis juste quelques images que vous n'aurez évidemment pas pu voir en écoutant uniquement le son, mais qui est très très parlant. Daniel commence par nous montrer une photo de son père avec son frère dans les années 42 à Paris.
Et ses deux sœurs. En 42 à Paris. Et
voilà.
Tous portent l'étoile jaune.
Oui. Mmh. Et ensuite, tu...
Tous portent l'étoile jaune. C'est sans masque, là.
Oui, je crois qu'avec le masque, on a un peu de mal. Bon, et on est éloigné un peu. Ouais. Voilà, donc ce film, tu nous expliques un peu d'où te part cette envie d'aller à la rencontre de ceux qui, comme toi, refusent cette politique israélienne. Et tu nous emmènes dans un trajet, on te voit en voiture, c'est là qu'on t'entend expliquer ta démarche. Mmh. Et ensuite... Tu vas aller chez 8 personnes chez lesquelles tu vas avoir une longue, longue, longue conversation sur ces questions que tu te poses et que eux se posent aussi. Et tu vas ensuite, au montage, nous redonner des extraits de ces discussions dans un montage qui fait dialoguer toutes ces personnes, alors qu'en fait, c'est avec toi qu'elles dialoguent chaque fois. Mmh. Et ça nous permet à nous, spectateurs, d'être aussi... dans cette discussion, d'avoir aussi la possibilité d'entendre les uns et les autres et d'avoir peut-être notre propre avis qui émerge. Et voilà, ce film c'est moi qui donne mon avis, mais je le trouve vraiment intéressant parce qu'en même temps, tu contextualises, c'est-à-dire que tu vas chez les gens avec des archives que tu as sur ton ordinateur et tu les regardes avec eux. Et grâce à ça, tu nous permets de redérouler un peu cette histoire pleine de nœuds qu'on a du mal à suivre, de Israël-Palestine, comment on en arrive aujourd'hui à ce nœud inextricable. Et donc, tu regardes avec les gens que tu vas voir différents moments d'actualité que tu es allé chercher dans tout le déroulé de l'histoire. Et puis ensuite, c'est vraiment une parole intime, une parole personnelle, une parole que chacun assume dans une réflexion et que vous partagez, puisque toi, tu interviens aussi et en donnant toi ta place, tes questions, ta position. C'est un vrai échange que tu as avec tous ces gens. Et on a cette musique qui nous permet de passer d'une personne à l'autre, avec des magnifiques plans de ciel qui changent de couleur et qui nous permettent de digérer un peu ce qu'on vient d'écouter chaque fois. Et voilà, avec une progression, ton film est en trois parties. Et bon, on y reviendra. Tu nous expliqueras un petit peu comment tu...
Bah, les trois parties, c'est d'abord un peu... Là, vous avez entendu l'extrait. Je me présente, en fait. Plus exactement, je présente mes origines, d'où je viens. Et en fait, ça va être un peu comme ça par rapport à toutes les personnes que je rencontre. C'est-à-dire que d'abord, je prends le parti de dire d'où on vient, d'où on parle. En voyant la grande diversité des personnes d'origine juive, où j'ai essayé d'avoir des gens d'horizons différents, Ashkenaz, donc Europe centrale, ou Sépharade, bassin méditerranéen, essentiellement bassin méditerranéen. Et du coup, on part avec eux sur leur histoire, sous nos histoires, on va dire. Et petit à petit, on aborde la question, donc Israël, le lien ou pas. Et puis petit à petit, l'engagement ou pas. Hein, on parle d'engagement. C'est-à-dire que ces personnes, à un moment donné, toutes, ont dit non. Voilà, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en Israël. Pourquoi parler en notre nom, etc. Et la dernière partie, c'est une fois qu'on a dit ça, on est pris quand même dans des contradictions entre d'un côté des gens qui sont censés représenter tous les juifs en France, qui ont une position très pas du tout nuancée, et puis de l'autre côté des aspects d'antisémitisme qui mélangent un peu toutes les choses, et comment ces personnes qui se sont engagées essayent de s'en sortir et essayent de vivre dans notre société en France. Voilà.
Voilà, et donc pour donner un aperçu sonore, audio, de ton film, on a choisi un extrait qui, en fait, c'est à peu près à la moitié du film, grosso modo. Donc tu es dans cette deuxième partie de questionnement et tu vas discuter avec une des femmes que tu es allée rencontrer et on vous propose d'écouter. L'extrait l'extrait de Daniel numéro 2, je crois.
L'extrait, quoi.
L'extrait suivant.
On va voir.
Le 2, extrait Daniel.
Il arrive.
Alors, il va.
Tu n'es jamais allé en Israël?
Jamais. Alors, pour moi, il y a un antisionisme qui me vient d'où il me vient. De ma culture communiste, de la méfiance vis-à-vis de tout nationalisme, vis-à-vis de tout ce qui est nationaliste et religieux.
Moi, je n'ai jamais été sioniste non plus. Hein. C'est quelque chose un peu étranger à ma conception des choses, puisque j'ai toujours trouvé assez étonnant qu'on veuille un pays pour réunir tous les juifs. Voilà.
Moi aussi.
Et juste petite séquence. Ouais.
De la pelouse à Ramallah, il faut 5 heures, parfois la journée, puis à une demi-heure de route. D'une ville à l'autre,
interdit. Ça, j'ai connu ça en Algérie. Des fouilles.
D'un barrage à l'autre, des parkings de taxi.
Gaza, 500 000 habitants pris au piège. Ce matin, plusieurs obus ont explosé dans le quartier commerçant de la ville. À l'hôpital, une caméra palestinienne filme l'arrivée des morts et des blessés.
J'ai pas envie de revivre des situations coloniales comme celles que j'ai connues en Algérie. Voilà. Alors on me dit à chaque fois, mais on voit rien. Oui, d'accord, mais justement, moi, je le verrai. Je le verrai. On voit rien si on veut rien voir. Voilà.
Et tu penses qu'il y a les gens de ta famille qui sont là-bas, voient rien, ou quand ils y
retournent? Ah ben, quand j'interroge ma cousine, quand on discutait un peu sur Israël, elle me disait, mais toi, tu mets toujours la justice avant ta famille. Voilà, constamment des choses comme ça. Alors je lui demande, mais en Israël, tu dois te sentir. Est-ce que tu es bien? Tu te sens vis-à-vis des gens, etc. Tu te sens pleinement juif, pleinement épanoui. Elle me dit, il y a beaucoup de Russes. Alors je lui dis, oui. Elle me dit, mais ils ne sont pas juifs, c'est des Russes.
Ah oui.
D'accord. Et puis, les juifs d'Europe centrale, les Ashkénazes, bon, c'est pas des vrais, c'est pas nous, quoi. Et puis, finalement, il y avait de proximité, sa communauté, c'était...
Juifs algériens, marocains et tunisiens.
Juifs algériens. N'élargissons pas trop, hein.
Voilà, vous venez d'entendre un extrait du film de Daniel Kupferstein, pas en mon nom. Ah, il y a eu une interférence. Bon, c'est pas grave, on est sur Radio Libertaire. Dans l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet, pas en notre nom aujourd'hui. On a prévu de juste poser une question, mais rapide, pour que on puisse ensuite passer au film de Muriel et au film de Philippe. Toi, dans ta filmographie, ce film arrive. Tu fais des films depuis combien, 30 ans
Voilà.
Et tu abordes des sujets très variés, mais il y a quand même un style, Daniel Kupferstein, qui creuse quelque chose de l'ordre de l'implication citoyenne, de la politique, de l'engagement.
Ressemble.
Qui te ressemble.
Oui, ça me ressemble. Disons que j'ai des idées, donc quand je... Je sais pas, quand j'entrevois de faire un film, d'un seul coup, c'est entre mes idées, entre mes idées, ce que je pense, que je ressens, le hasard fait que, par rapport à ça, je rencontre soit des gens, soit il y a une idée qui émerge, et puis à ce moment-là, ça commence à prendre forme parce que j'enquête, j'essaie de rencontrer des gens, et puis petit à petit, je monte un projet, comme tout réalisateur, c'est-à-dire je l'écris tant bien que mal et puis petit à petit il se forme, quoi. Mais c'est vraiment je pars de ce que je ressens, voilà, et des rencontres, parce que de toute façon le cinéma, documentaire en tous les cas, c'est toujours des rencontres, donc voilà, je pars de ma vie qui est mes rencontres et je suis sensibilisé par certaines choses, comme les injustices, l'oubli, voilà, c'est des choses assez fortes qui me tiennent à cœur. Mais par rapport à ce film-là, c'est un peu différent dans la mesure où j'ai été... C'est justement, si le titre c'est pas en mon nom, c'est parce que j'étais interpellé. J'avais déjà fait un film sur la même thématique qui s'appelle L'amitié plus forte que la haine, où je filmais deux femmes, une juive et une arabe maghrébine, qui étaient amies dans une cité, et puis il commençait à y avoir un peu partout des agressions contre des synagogues, etc., où la question palestinienne rentrait dans les notions identitaires d'un côté comme de l'autre, etc. Donc dans les années 2002-2003, donc j'avais commencé à faire un film comme ça. Et là, j'ai eu depuis deux choses qui étaient importantes à mes yeux. C'est une manifestation du CRIF, donc du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui appelait à une manifestation pour soutenir Israël, alors que Israël les bombardait Gaza. Et je trouvais ça insupportable que des gens se disent représentatifs, donc me représentaient. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il y a un copain d'origine maghrébine qui me dit « Oui, mais toi, t'es un juif pas pareil, différent, etc. » Et donc, du coup, j'ai voulu, par rapport à tout ça, j'ai voulu parler de, finalement... pourquoi, enfin, on est différent, oui, mais on est différent, c'est pas, il y a, enfin, on n'existe pas par rapport à nos origines. On existe parce qu'on a des idées, on les défend, on parle, on a des actes, etc. On n'a pas, on n'existe pas, enfin, on n'est pas lié à nos origines par rapport à n'importe quel sujet, n'importe quel, voilà. Et donc, comme c'était quelque chose qui, pour moi, m'agressait, je me suis dit, ben, ça serait bien de développer un petit peu ça. Et développer comme une prise de conscience, c'est-à-dire petit à petit, comment des gens, petit à petit, arrivent à remettre les choses en cause, à se revendiquer, à dire non, voilà. Mmh. Et donc, c'est un peu pour ça que j'ai fait ce film.
Voilà. Et ben c'est une question sur laquelle on reviendra dans la deuxième partie de l'émission, mais
pas de problème.
Voilà, on a déjà une bonne approche, et on va maintenant.
Mais est-ce qu'on peut juste donner le nom de la personne qu'on vient d'entendre peut-être et dire quelles sont les personnes et les personnalités que tu as rencontrées? Juste
là, c'est situer. La personne qu'on a entendue, c'est André Bensoussan, mmh. qui est d'origine juive algérienne. Voilà, qui donc c'est une des rares qui n'a pas été en Israël, alors que tous les autres ont été au moins une fois, voire plusieurs, voire y habiter, etc. Voilà. Donc, mais tu veux tous les autres
non, on aura peut-être l'occasion.
Robert Kissous.
Ouais. C'est intéressant de savoir avec qui tu t'es entretenu.
Ronnie Broman, voilà.
Et on aura un deuxième extrait dans la deuxième partie.
Je pourrais dire toute la liste. Il y a autant de femmes que d'hommes.
Voilà. 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 Donc, pour poursuivre, on va maintenant parler du film de Muriel Cravatte, Demain est si loin. Et je crois que c'est Bernadette qui va
le
présenter.
On va le faire ensemble, mais enfin, disons bonjour Muriel Cravatte.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Ouais. Donc, on a été très contents de découvrir ce film, Demain est si loin, qui nous raconte une histoire, malheureusement, qu'on entend depuis quelques années assez régulièrement et qui ce film nous éclaire. Donc je vais donner juste un petit résumé du film pour commencer. Donc chaque jour, des exilés tentent de traverser la frontière franco-italienne à pied pour rejoindre la France, empruntant des itinéraires de montagnes dangereux pour échapper aux traques policières. Donc arrivés à Briançon, ils sont accueillis pendant quelques jours au refuge solidaire, hébergement d'urgence géré par des bénévoles. Entre harcèlement policier et criminalisation, les solidaires qui viennent en aide aux exilés s'organisent pour continuer à agir.
En fait, on va commencer par vous proposer d'écouter un extrait du film qui n'est pas le début du film et qui pourrait l'être. Et ça donne l'idée de comment on s'introduit dans cette histoire, comment Muriel a décidé de nous donner l'atmosphère et de nous donner quelques clés de compréhension, mais qui viendront tout doucement. Ce film est magnifique au niveau de ses images et de sa construction. On en parlera bien sûr avec Muriel après, mais on vous propose cet extrait qui se trouve à un quart du film à peu près.
28 minutes.
Voilà.
Et combien de secondes ?
30. Ce n'est pas ça.
Si quelqu'un a besoin d'aide, sortez. On peut vous aider, n'ayez pas peur. Vous pouvez venir, on peut vous aider.
Près des bâtiments là-bas. Ça va, vous avez pas eu trop froid?
C'est pas facile.
Ça va, hein.
monde parle français? Vous parlez plus français? Vous aussi? Ça va?
Oui.
Ok. On va discuter un peu pour voir comment on fait pour descendre à Briançon. Okay. Nous, on a des voitures, on va vous aider.
Ok. La police, elle peut venir ici?
Oui, la police, elle peut venir ici. On va rester un petit peu, le temps de voir si ceux qui étaient derrière vous, là, qui étaient fatigués, ils arrivent. La police, elle peut venir. Si elle vous voit, si vous êtes demandeur d'asile, il faut le dire tout de suite. Si vous êtes mineur, il y a des mineurs parmi vous? Toi, t'es mineur? D'accord, toi, t'es mineur. Bon, donc, vous le dites tout de suite. Si la police, elle vous voit et que vous êtes mineur ou demandeur d'asile, elle doit vous laisser circuler ici. Donc, vous leur dites, j'ai mes papiers, ou j'ai pas mes papiers, peu importe, et je suis venu pour faire ma demande d'asile ici, en France. Après, c'est possible que la police ne respecte pas la loi. Okay. La police, elle peut aussi dire, je m'en fous. Et là, il y a Muriel qui filme. Si la police ne respecte pas la loi et que Muriel filme, bah, nous, ça va nous permettre de témoigner, de montrer qu'il y a des problèmes avec la police, avec les frontières, avec le non-respect des lois. Après, moi, je sais pas comment ça va se passer. Je peux pas être sûr. On va dans cette maison, parce que cette maison, elle est tranquille. Vous avez le droit d'y être. Il n'y a pas de contrôle de police là-bas. Par contre, sur la route, en voiture, entre ici et cette maison, la police, elle peut faire un contrôle. Au pire, ils vous ramènent en Italie, à Clavière, ou même à Oux, mais c'est pas dit. Il y a des soirs où la police, elle passe toutes les 5 minutes, il y a des soirs où c'est tranquille, on peut pas savoir. Il y a personne?
C'est bien, j'ai vu une motoneige qui arrivait dans ce coin, là. Et après, je voulais prendre mes gants et y retourner. Non, pas bien. Il y a de l'autre côté là.
Donc tu le dis si tu les vois arriver. On reste encore un petit peu là, tu t'en descends et puis.
Je me mets juste un petit peu au-dessus des immeubles.
Ils aiment même pas vous agir comme ça.
Bon, voilà ce premier extrait, Muriel. Peut-être juste resituer un petit peu ton... Enfin, je te présente en quelques mots, puis tu compléteras. Tu t'es formée à l'INSAS, à Bruxelles, il y a déjà quelques années, ça fait...
Il y a quelques années, oui.
Oui, on va dire aussi, peut-être pas tout à fait 30 ans, mais...
Si.
Il y a 30 ans,
il y a 30 ans, oui.
Voilà, et bon, beaucoup de choses se sont passées. D'abord, pour toi, tu es plutôt chef opératrice au départ.
J'ai un parcours un peu atypique, on va dire, enfin dans le sens où j'ai eu une formation d'opérateur image, après j'ai été assistante sur des tournages de long métrage, puis j'ai fait de la musique pendant 15 ans, mais je faisais des films qu'on intégrait à nos spectacles, donc en fait c'était des films un peu expérimentaux et très libres dans leur structure narrative, même si c'était plutôt des films écrits et fictionnels. Et puis je suis revenue au cinéma, pas en salle de spectacle, mais en salle de cinéma. J'ai fait des courts-métrages de fiction, j'ai travaillé comme chef opératrice, et puis en fait j'ai été percutée par ce sujet, voilà, et c'est pour ça que j'ai fait ce documentaire.
Alors justement, sur comment as-tu été percutée par ce sujet?
Moi, depuis toute petite, je vais dans ce coin-là, autour de Briançon, pour faire de la randonnée, du ski, de l'escalade, de la montagne. Et je me suis toujours dit que ce coin de paradis resterait là quand partout en France, ce serait le chaos. Je pourrais toujours aller me réfugier là-bas. C'était mon refuge à moi, dans ma tête. Et me dire que, en fait, pour certains, ce coin de paradis pouvait être vécu comme un enfer. Ça m'a vachement interpellée. J'ai un copain qui m'a fait passer le lien d'un doc qui est passé sur France Culture et qui racontait les migrants mineurs reconduits à la frontière. Donc j'ai écouté ça et ça parlait de lieux que je visualisais complètement, mais comme des lieux magnifiques et d'évasion pour moi, au sens figuré. Et donc j'ai voulu aller voir, et je suis allée voir d'abord comme bénévole en fait. J'ai beaucoup aussi regardé tout ce qui était, la façon dont les médias en parlaient. Je trouvais qu'ils surfaient un peu sur l'émotion et qu'il n'y avait pas grand-chose qui correspondait à un travail de fond, en tout cas à cette époque-là. Après, il y a eu beaucoup de choses.
C'était quelle époque, tu nous rappelles ?
C'était début 2018, fin 2017 même, en fait. Ce doc-là, c'est fin 2017. Et donc, pendant quelques mois, j'ai observé de loin la façon dont les médias rendaient compte de cette actualité. Et puis j'ai décidé d'aller voir avec l'envie de filmer, mais pas forcément l'envie de faire un film, c'est-à-dire de garder trace en fait, d'avoir une trace de ce qui se passait. Donc je suis allée comme bénévole au refuge solidaire et je me suis dit que j'avais envie de filmer. Donc c'était ça dans un premier temps, mais j'avais envie de filmer maintenant et tout de suite et pas de monter une production. Et pas d'attendre le cycle des 2 ans en gros qu'aurait nécessité le fait de monter une production, si encore j'avais eu la chance de réussir à monter une production, puisque c'est un sujet, les migrants en fait, c'est un sujet. Donc quand on va voir une chaîne, on dit voilà, je voudrais faire un film sur ce qui se passe à Briançon, c'est les migrants. Non, on a déjà deux cases, on avait deux films à faire sur ce sujet, c'est bouclé. On a eu la Libye et puis on a eu un camp en Grèce, donc c'est bon, c'est
surtout loin.
Il y avait vraiment eu cette nécessité d'aller filmer et d'aller garder la trace pour mémoire, sans savoir si j'allais en faire, s'il y allait avoir la matière à faire un film. Et j'ai alterné comme ça parce que le refuge c'est un lieu où les gens restent très peu de temps. Donc, pour que ma présence avec la caméra soit bien vécue par tous, que ce soit ceux qui voulaient bien être filmés et ceux qui ne voulaient pas, avant de sortir la caméra, je faisais dans ce lieu, je faisais 2-3 jours de bénévolat. Et puis j'expliquais à chacun en fait que après j'allais sortir ma caméra, mais que j'étais toujours la même personne, et que s'ils voulaient bien être filmés, c'était tant mieux, et s'ils voulaient pas, il fallait qu'ils me le disent. Mais du coup, il n'y a jamais eu de défiance en fait, ça s'est fait hyper simplement
et progressivement. Oui.
Et progressivement. Voilà. Ensuite, j'ai passé de plus en plus de temps. Puis c'est une année qui a été très chargée, l'année 2018. Là-bas, puisque il y a eu aussi, au début je voulais vraiment me concentrer en fait sur la trajectoire des réfugiés, le passage de la frontière, l'arrivée au refuge et le départ, et puis s'est greffé là-dessus toute l'actualité relative au harcèlement juridique, judiciaire des solidaires. Et donc j'ai élargi en fait à cette question-là. Je suis allée filmer quelques les procès, etc. Enfin les procès vus.
Oui, parce que effectivement c'est l'époque où donc le délit de solidarité a été revu. En fait, tu pourras en dire des choses plus précises que ce que je pourrais en dire moi certainement. Ouais. Mais... par le Conseil constitutionnel.
Ben en fait, je crois que si je me trompe pas, c'est à l'été 2018 que Cédric Herrou a posé une question prioritaire de constitutionnalité. Donc Cédric Herrou qui est engagé auprès des réfugiés à la frontière au niveau de Vintimille, donc pas de Briançon, et qui a eu plusieurs démêlés avec la justice. Il a posé une question à savoir si ce délit de solidarité dont on l'accusait n'était pas en contradiction avec un des principes de la République, qui est la fraternité. Et le Conseil constitutionnel s'est prononcé en faveur de la requête de Cédric Herrou, à savoir que effectivement le délit de solidarité relevait du principe de fraternité. Néanmoins, il y a eu un petit bémol pour dire qu'au niveau de la frontière, ce principe de fraternité, de solidarité, pouvait être exercé avec certaines restrictions, puisque l'aide au passage de frontières reste un délit. Et l'obstruction au travail de la police reste un délit. Donc on est sur des choses hyper hyper sensibles, c'est-à-dire qu'ici par exemple dans l'extrait qu'on a entendu, quand le bénévole dit venez, on va se mettre au chaud. Ouais. Il n'est pas dans un travail d'obstruction de la police, mais dans l'assistance à personne en danger. En revanche, s'il leur dit venez, on va se cacher là. Ils font le même trajet et là, il fait obstruction au travail de la police et il peut être accusé d'aide à l'entrée illégale sur le territoire. En fait, c'est hyper, hyper sensible. Parce que autour de la frontière, là, il y a une espèce de zone de je ne sais plus combien de kilomètres, 10, 15, où la loi s'applique de façon un petit peu différente du reste du territoire. C'est aussi le cas dans les gares et tout ça. C'est des zones sensibles. Et c'est lié à l'état d'urgence qui a été prolongé, en fait. Et donc, la loi n'est pas interprétée pareil par tout le monde.
Et d'autant plus qu'on l'entend dans l'extrait, justement, demander des précisions aux personnes, à savoir s'ils sont mineurs ou bien s'ils sont
apatrides. C'est plus... Non, ils sont, c'est pas apatrides. En fait, il dit, vous avez des papiers ou pas de papiers, vous avez de toute façon le droit de faire une demande d'asile. C'est simplement que dès l'arrivée en France, le traitement qui doit être accordé aux personnes majeures et mineures est différent. C'est-à-dire que une personne se déclarant mineure, tant qu'elle se déclare mineure, elle est mineure, elle doit être considérée comme mineure jusqu'à étude de sa minorité. Et à ce moment-là, la procédure suit son cours. Mais un mineur, on a un devoir impérieux de protection. Mais une personne en danger, on a un devoir d'assistance. Et ce que je mets à la fin du film, et qui est une réalité, qui est écrite dans la Constitution, c'est que le droit d'asile est un principe constitutionnel. Et toute personne a le droit de demander l'asile. Donc il y a un moment où il faut... Papier, pas papier, en fait, ça n'existe pas, cette notion-là.
D'autant plus qu'il fait moins 15, hein, rappelons quand même les conditions climatiques.
Mais toute personne a le droit de demander l'asile en France. Donc normalement, tous ces gens devraient pouvoir se présenter au poste frontière, puisque maintenant, les frontières ont été rétablies hein, avec l'état d'urgence, donc il y a une guérite avec des douaniers, et devraient pouvoir se présenter et dire « Bonjour, je viens en France, je voudrais faire une demande d'asile. » Et on leur dit « Allez, c'est par là. » Et ils devraient pouvoir y aller. Après, demande d'asile, accordée, pas accordée, il y a d'autres débats. Parce que comme on a réduit les autorisations, les permis de séjour pour travailler, etc., certaines personnes se réclament du droit d'asile, mais ne sont pas forcément des personnes persécutées. Donc on va vous dire qu'ils n'ont pas forcément droit à l'asile. Donc ça, c'est un autre débat. Mais si on se place juste au niveau de la frontière de ce qui se passe, n'importe qui, en fait, devrait pouvoir, arrivant à la frontière, être aiguillé vers un centre habilité à traiter sa demande.
D'ailleurs, c'est peut-être un détail, mais c'est vrai que dans les médias, on parle tout le temps de migrants. Et dans ton film, j'ai remarqué qu'on parle surtout d'exilés, en fait. Et quelquefois, les mots veulent dire beaucoup, quoi. On parle d'exilés dans ton film.
Alors, dans tout le réseau dit militant, même si j'aime pas tellement ce mot, parce que j'ai appris que ça venait de militaire il n'y a pas très longtemps. dans tous ces réseaux d'aide et de solidarité, on parle de réfugiés, d'exilés, et pas de migrants. Ça, c'est un terme qu'on trouve dans la presse assez fréquemment. Et donc, je me suis un peu alignée, en fait, sur cette terminologie-là. On parle d'exilés et de réfugiés. Peut-être que c'est ça définit mieux, en fait. C'est qu'un migrant, c'est quelqu'un qui bouge, un exilé, c'est quelqu'un qui part. Et je pense que la notion de la souffrance de l'exil, en fait, personne part de gaieté de cœur de chez lui. Et donc peut-être qu'il y a plus cette notion-là dans le terme d'exilé que de migrant.
Oui, l'exilé est plus dans la fuite, en fait.
Alors que le migrant, c'est quelqu'un qui bouge, quoi.
Exactement,
mais
c'est
donc
le mouvement de population, la migration.
Maintenant, on parle quand même de migration. Hein, donc.
Oui, surtout qu'une bonne partie voulait aller au départ en Angleterre. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a au début commencé à parler des migrants. Mais c'est vrai que le terme exilé est quand même plus juste, à mon avis.
Ouais, je pense. Après réfugié, c'est un statut un peu particulier.
Voilà, donc il faut qu'ils fassent leur demande.
En fait, on peut être réfugié moralement, mais après, le réfugié, c'est aussi un statut. Voilà, donc il faut faire attention quand on utilise ce mot. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme tu dis qu'ils voulaient aller en Angleterre, il y a quand même les deux tiers des migrations qui se passent de pays du Sud à pays du Sud. En général, les gens veulent partir à côté de chez eux pour fuir une situation intenable. Et allant à côté de chez eux, la situation est à nouveau intenable. Donc, ils vont un peu plus loin. Sur la route migratoire qui conduisait à Briançon au moment où j'ai tourné, en fait, ils se retrouvent de proche en proche en Libye, où c'est intenable, et ils préfèrent monter dans des barques où ils risquent la mort plutôt que de rester à subir les tortures en Libye. Donc c'est de proche en proche, en fait, qu'ils arrivent là, et pas forcément avec un projet de départ de venir en Europe et de rêve européen. Donc je pense que ça, c'est important aussi à préciser.
Voilà, et ben, on est parti sur une discussion à poursuivre dans la deuxième partie de notre émission. Et maintenant, nous allons aborder le troisième film que nous avons choisi pour « Pas en notre nom ». Et c'est d'ailleurs le film qui a pour titre « Pas en notre nom ». Philippe Borel est avec nous au téléphone. Philippe, tu es là ?
Oui, je suis là, j'écoute attentivement.
Eh bien alors voilà, c'est ton tour. Donc, ce film « Pas en notre nom », tu l'as réalisé il y a déjà une bonne plus de 10 ans. C'est un film qui... Je m'embrouille. Je vais en donner un petit résumé, ensuite on écoutera un extrait, et puis après, je te demanderai, comme on a déjà posé la question aux deux autres, de situer un peu ce film dans ton parcours. Donc, pas en notre nom, à la veille du 3e anniversaire de l'intervention américaine en Irak, des voix dissidentes existent, de plus en plus nombreuses. Elles clament leur loyauté aux idées et valeurs qui ont fait l'Amérique. Le film propose un voyage à la rencontre de cette Amérique anti-guerre qui recoupe les cercles artistiques, intellectuels, politiques et militants, mais aussi des pères et des mères anonymes, des déserteurs, des religieux et des laïcs. Voix stigmatisées, bannies, réduites au silence dans l'Amérique des classes moyennes et qui enfin se font entendre. Ce film documentaire interroge l'unanimisme patriotique autour du drapeau et du président Bush, le raidissement du pays et son intolérance, son enfermement isolationniste et la chasse aux sorcières, les patriotes axes et la censure s'exerçant contre les rares contestataires de la première heure. On va écouter un extrait qui se trouve... Donc c'est un film de 57 minutes, dans le premier tiers...
Pour ma télévision, et encore, c'est la case 52, officiellement.
Donc t'as débordé,
Non, je suis spécialiste du débordement, je m'en fous.
D'accord, tu vas nous raconter ça. Et donc cet extrait nous donne une idée de comment tu t'y es pris, qui tu es allé rencontrer, à qui tu donnes la parole, ou qui, de qui tu collectes la parole. On a eu une petite difficulté, c'est que évidemment ça se passe aux États-Unis, où on parle américain, et dans ton film, il y a une grande partie des paroles qui sont sous-titrées en français, et une autre avec une voice-over, un doublage qui nous permet de comprendre en français ce qui est dit. Et pour la radio, nous qui sommes Radio Libertaire à Paris et pas toujours très doués pour les langues étrangères, nous avons choisi un passage,
en français.
Évidemment, qu'on va comprendre en français.
Get over it. The majority voted for George W. Bush. The majority supports this government. We support George W. Bush. Get over it.
Look how fat you are now. Look at how fat you are, you fat fuck. Fat boy, come on over here. Fat boy, come on over, big boy. Come on over. Come on over here.
This is patriotism to them.
C'est ça le patriotisme pour eux. C'est ça être américain. S'enrouler dans le drapeau, se boucher les oreilles, ne pas vouloir entendre ou savoir ce qui se passe réellement là-bas. Ça a toujours été comme ça dans ce pays. Vous avez des gens qui disent « Nous allons envahir l'Irak ou l'Afghanistan ». Non, ce n'est pas nous qui faisons le job. Ce sont les militaires. Si vous connaissiez le dédain qu'ont les gens ici et le gouvernement pour la vie des soldats, leur idée, c'est « vous vous êtes enrôlé pour mourir, en somme. C'est votre boulot d'aller quelque part et de mourir. » Eh bien non, mon boulot, c'est de défendre la Constitution et les citoyens de ce pays. Et ce n'était certainement pas ce que je faisais en Irak, en aucun cas. C'était 4 ou 5 jours avant que je quitte l'Irak. Le gamin à ma gauche fait un salut hitlérien à la caméra. Et à ma droite, un gosse brandit un journal local sur Abu Ghraib avec les photos de torture. Je ne leur en veux pas d'avoir ce type de réaction. Je les comprends. Nous sommes allés dans un pays et nous l'avons envahi, sans raison. Ce qui, à mon avis, n'est pas si différent de ce que les nazis ont fait sous Hitler. Vous savez, j'ai lu une citation d'un général qui disait « La guerre préventive n'a rien de nouveau. Hitler l'a inventé lorsqu'il a envahi la Pologne. »
Voilà Philippe, on vient d'écouter un extrait de ton film, pas en notre nom, qui est sorti, qui a été diffusé sur Arte, en 2006, et toi, en fait, tu as aussi une longue carrière derrière toi. Tu as commencé d'abord comme journaliste, en travaillant beaucoup sur énormément de reportages, d'investigations, avec des équipes et des productions avec lesquelles tu t'embarquais. Et puis, à un moment, tu décides de te lancer dans le cinéma documentaire, dans des films d'auteur que tu vas porter. Je crois que, si j'ai bien compris, pas en notre nom, en 2006, et à cette époque-là, et un des premiers films que tu signes comme réalisateur de documentaire, est-ce que tu peux, toi, donner un peu ton aperçu?
Alors, à un journaliste, il faudra préciser, rajouter deux termes, c'est important. C'est un concept qui est apparu avec une caméra qui s'appelait la Betacam, qui était la première caméra dans les années 80. Une caméra vidéo qui permettait de travailler tout seul et de concevoir la caméra comme un stylo. On écrit avec des images, du son, et au lieu d'écrire avec un stylo. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire cette formation au JRI, journaliste reporter d'image, dans une école qui a été fondée au départ par des gens issus de la Résistance, en 46, le centre de formation des journalistes, qui était rue du Louvre à l'époque. Et je suis issu de la promo 1990, avec cette spécialité, journaliste reporter d'image. Et donc, pendant, on va dire, les 10 premières années jusqu'en 2000, mes 10 premières années d'activité, j'ai effectivement zappé, entre guillemets, d'un univers à l'autre en permanence avec ma caméra pour des émissions magazines comme La Marche du Siècle de Jean-Marie Cavada et son agence de presse Théopresse ou l'agence Kappa d'Hervé Chevalier qui produisait une émission qui était mythique dans les années 90 sur Canal+, l'émission 24 heures. Et j'ai grandi entre ces deux univers, ces deux conceptions du journalisme. Une école de rigueur et d'enquête, qui était La Marche du Siècle, sur le front, et l'école Kappa, qui était plus, avec ce grand angle qu'on avait sur nos caméras, cette émission 24 heures, qui, dont le principe était de suivre pendant 24 heures, 5 ou 6 personnages vivant une même réalité, un même événement ou une même thématique. Et c'était tourné en... à l'instinct, dans l'endurance, et parfois tourner à l'autre bout de la planète le mercredi, et pourtant diffuser deux jours après à l'antenne sur un format d'une heure, le samedi. Voilà. Et donc il y avait d'un côté quelque chose qui relevait plus de l'immersion, on va dire, du côté de Kappa, et de l'autre la réflexion. Et ça m'a permis de passer d'univers de guerre, premier film de long format, entre guillemets, même si c'était dans la catégorie reportage. Il était en France pour La Marche du Siècle, 26 minutes, consacré à la fermeture de Billancourt, l'usine Renault. Et donc je l'ai réalisé avec deux autres camarades de ma promotion. Pour La Marche du Siècle, ça s'appelle Les Orphelins de Billancourt. Et donc après, catégorie, documentaire, reportage, pour moi, je fais avec ce que je suis, d'où je parle depuis 30 ans. Et après, c'est pas moi qui mets les étiquettes, c'est plutôt le format qui va décider si oui ou non, ça fait partie d'une émission, donc du reportage, ou si c'est un format unitaire, puisque les chaînes... réfléchissent en termes de cases, de format, de durée, etc. C'est pour ça que je parlais de 52 minutes. C'est un format court pour le documentaire à la télévision. En tout cas, sur les chaînes publiques qui en font encore. Arte ou France Télévisions, France 5 surtout. Mais il y a un format de 90 minutes. Voilà. Justement, l'enjeu pour moi, au fil de cette carrière, finalement j'étais plutôt pigiste, puis intermittent, donc précaire, en fait, depuis 30 ans, ça a été de parler d'où je suis avec mon mode d'expression qui est, grâce à une caméra, aller filmer la réalité. Et après, essayer d'apporter aux gens qui regardent un point de vue différent, justement. Parce que je ne sais pas faire autrement, je parle d'où je parle, avec mon histoire et mon point de vue. Et pour moi, la neutralité, l'objectivité, c'est de la science-fiction, quoi. C'est un gros mensonge. Donc, l'essentiel, c'est justement de préserver cette diversité de points de vue. Et c'est ça qui est menacé aujourd'hui dans le PAF, le paysage audiovisuel français. Et surtout crescendo depuis que justement je suis passé à cette catégorie entre guillemets du documentaire depuis ce film justement. C'est le premier d'une série de 10 films en date de 2005 à le dernier en date est sorti en 2018, je terminais en 2018, a été diffusé sur un format court sur Arte, mais avec les moyens d'un 52 minutes j'ai fait une version de 90, plus libre. Donc la version courte a été diffusée en mai 2019 sur Arte, elle s'appelle Internet ou la révolution du partage. C'était une bagarre pour trouver un compromis sur le titre contre la version longue qui, elle, est surtout utilisée en projection débat, un peu partout en France, mais aussi à l'étranger, qui a été déclinée dans plusieurs langues. Ça s'appelle La bataille du libre. Et en fait, sous prétexte de partir. De parler de logiciel libre, c'est la bataille du commun, en fait, avec un C majuscule. Et donc, voilà. Moi, je suis au départ plutôt journaliste, devenu documentariste par accident, parce que la case correspondait, le format correspondait. Mais pour autant, je suis resté le même. Hein, et ma passion, c'est d'aller m'immerger. Alors, j'admire le travail de mes camarades qui sont au studio. Je l'ai découvert tout à l'heure, je ne les connaissais pas. Mais voilà, il y a une nuance essentielle entre leur travail et le mien, c'est que d'un côté, il y a un contrat en amont, un accord, un financement, un contrôle de la part de responsables de chaîne, en l'occurrence Arte pour Not In Our Name, pas notre nom, puisque Not In Our Name, le titre du film, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis en mars 2002 en réaction à ce qui s'est passé le 11 septembre. Donc le titre au départ, c'est le titre anglais, qui a été francisé pour l'occasion. Et voilà, et j'ai perdu le fil. Je vous redonne la parole, pardon.
Si, mais c'est vraiment intéressant ce que tu soulignes, justement, sur cette différence sur laquelle on revient sans arrêt en essayant de définir le documentaire.
Je voulais en venir. En fait, la différence, c'est que ils ont dû, malheureusement ou heureusement, c'est discute, justement, faire appel et parfois sans attendre de faire appel à un financement, l'urgence de filmer d'abord, comme l'a fait Muriel. Voilà la nuance. Il y a une liberté d'un côté, voilà, et de l'autre, il y a un cadre et il faut jouer avec ce cadre.
Tout à fait. Et en fait, je voulais quand même juste rajouter que dans ta longue série de films documentaires, mais ce produit pour la télé, effectivement, c'est une grande chance. Et quand même, quand on regarde les titres de tes films et les sujets que tu choisis d'aborder, on sent quand même qu'il y a toi derrière qui oriente quand même ces choix. Tu vas pas faire n'importe quel, tu vas pas traiter n'importe quel sujet. C'est quand même chaque fois quelque chose qui réfléchit, qui interpelle, qui vient mettre une goutte et un grain de sable dans un système, qui éveille les consciences quand même de par le monde. Et je voulais juste dire que tu as déjà été notre invité à Radio Libertaire. On a déjà traité le sujet et c'était le sujet de la psychiatrie. C'était début mars 2020. dans l'émission Quelle hospitalité pour la folie aujourd'hui, et c'était avec ton film Un monde s'en fout que tu avais fait en, s'en fout avec un point d'interrogation, un film de 2009. Donc voilà, on est bien d'accord. Chaque fois, on va se reposer la question de comment on fait les films, avec quel argent, avec quelle énergie, et de toute façon.
Dans quel style aussi, parce que ce que j'admire là, c'est, chez Muriel, pardon de citer Muriel à nouveau, je trouve que le travail de Daniel est aussi remarquable et intéressant. C'est pas le problème, mais là, ce qui m'intéresse aussi chez Muriel, c'est le côté immersif qui fait écho. Alors. Justement, avec cette émission qui n'avait rien à voir, puisque c'était tourné en 24 heures avec 5 regards, 5 personnages, voilà. Mais là, il y a cette urgence de filmer, de ne pas avoir à attendre justement de quoi que ce soit, de leur financement, et ça, je suis assez admiratif. Donc.
Merci.
Oui, ben on est vraiment, nous, dans le vif du sujet de notre émission, c'est-à-dire on a déjà traité le sujet avec l'envie d'aller voir et d'aller chercher des réalisateurs, des réalisatrices qui, chacun à sa manière, traite le sujet de façon différente et avec une revendication derrière. Effectivement, c'est quand on nous dit, comme Muriel racontait tout à l'heure, on va frapper aux portes des chaînes ou des prods, et on nous dit on a déjà traité le sujet, eh ben non, bien sûr que oui, qu'il faut encore et toujours traiter le sujet d'une autre façon, avec sa propre vision.
Ouais, moi je voudrais dire un truc, quelque chose aussi par rapport à ce financement. Moi j'avais écrit un projet en fait, j'étais voir presque toutes, enfin plusieurs sociétés de production ou de chaînes, et elles ont toutes dit non. C'est-à-dire que un sujet comme ça, il y a quelque chose de trop tabou ou trop dérangeant ou trop marqué, je sais pas. En tous les cas, là, c'est même pas attendons, il faut tourner tout de suite, etc. C'est d'emblée, c'était le sujet qui dérangeait. Et il y a un producteur qui m'a dit, mais tu ne verras jamais une chaîne accepter ton projet. C'est trop, voilà, c'est trop incompréhensible aujourd'hui, etc. Et c'est-à-dire que c'est pas uniquement la question de soit l'engagement lié d'emblée avec une chaîne, avec une boîte qui a déjà un accord ou désaccord avec les chaînes, ou l'urgence de faire un film parce que il faut démarrer tout de suite, parce que ça se passe maintenant et pas attendre 2 ans pour être produit. Je pense qu'il y a déjà un regard télévisuel, un formatage télévisuel qui pose problème en France. Voilà.
Et alors justement, c'est là où moi je pense que il y a une responsabilité du système tel qu'il fonctionne et son évolution surtout. Et donc des gens qui font vivre ce système, je parle de l'organisation même et des décisions qui sont prises par cette organisation, donc les responsables de chaîne. Et je parle uniquement des chaînes publiques, parce que je n'ai jamais, à part l'exception de Alerte dans nos assiettes, qui était une commande de Canal+, à 90 minutes, mais c'est la seule exception sur 10 films. Donc 9 films pour les chaînes publiques et 1 pour une chaîne privée, qui au départ a une commande ultra marketée dont je vais réussir à m'affranchir. Et ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que cette logique marketing que je déplorais à l'œuvre chez Canal+, j'ai le sentiment que du côté des chaînes publiques, elle est de plus en plus à l'œuvre et qu'elle devient un filtre. L'impératif étant d'un côté de générer de l'audience, de faire des coûts, de faire parler de produits. Et du coup, les gens qui ont une manière de faire, qui cherchent comme la mienne, à mettre en perspective pour essayer de décaler le regard, pour donner des clés de compréhension, des points de vue différents. Puisque finalement, mes films, ce sont des, à la différence de mes camarades en studio, ce sont des films puzzle. Chaque pièce de mon puzzle pourrait être un film entier, en immersion. Mais ma spécialité, c'est de m'immerger à chaque fois dans chaque pièce du puzzle et tourner beaucoup à chaque fois. Comme si je pourrais faire avec mes rushs peut-être un film. Et d'ailleurs, je fais beaucoup de bonus en plus qui accompagnent mes films grâce à ça. Mais le but final, c'est de composer grâce à ces pièces de puzzle une image qui permet de réfléchir, décaler le regard. Et c'est en ça que ça peut être considéré comme subversif aujourd'hui dans la France telle qu'elle est depuis 3 ans, on va dire, et que y a un refus systématique. Là, je me suis fait jeter 4-5 projets, dont 3 ou 4 co-signés par Noël Mamère, qui avait déjà co-signé 3 films avec moi sur les disques. Donc il y a une espèce, sous prétexte marketing, une espèce de contrôle, y compris dans les chaînes publiques, dont le devoir devrait être au départ de garantir une richesse de points de vue, une diversité de points de vue. Et j'ai l'impression qu'on est... Cette logique marketing qui était le propre des chaînes privées au départ, elle a contaminé largement le groupe France Télévisions et malheureusement aussi en partie Arte.
Oui, alors un des problèmes qui se pose quand même, c'est au niveau de la... Puisqu'on rentre dans un aspect...
Nous concerne tous, ouais, y compris ceux qui regardent des films.
Absolument. Voilà. Mais au niveau de la démocratie, il y a un problème qu'on doit se poser tous, c'est que finalement, des directeurs de programmes de chaînes publiques, il y en a très peu. C'est-à-dire que finalement, l'ensemble des films documentaires qui passent sur les chaînes publiques, notamment, ou sur les principales chaînes de télévision, reposent entre les mains de quoi ? Allez, au maximum 10 personnes en France.
Qui passent d'une chaîne à l'autre.
Voilà. Plus. Oui, en plus, qui passent d'une chaîne à l'autre. Et on ne citera
carrière,
pas, et on citera pas les noms. Et ça reste, c'est 10 personnes qui vont donner le là du cinéma documentaire en France. Et ça, d'un point de vue de la démocratie générale, enfin de la démocratie, tout simplement, ça pose vraiment un problème à ce point-là, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle, ou il n'y a pas de citoyens ou de téléspectateurs qui puissent avoir un mot à dire, ou des associations comme Ad-Hoc, etc., qui puissent avoir un avis, ou au moins sur cette diversité qui est nécessaire à la culture en France. Et ça, c'est un vrai problème, à mon avis.
Bravo, c'est effectivement une parole qu'on pourrait tous porter. Et pour clore cette première partie sur laquelle on a déjà pris pas mal de retard, mais c'est comme ça, on vous propose une petite pause musicale avec la chanson de Boris Vian, Le Déserteur.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Et voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Dans l'émission d'Ad Hoc, on a déjà traité le sujet. Aujourd'hui, le sujet, pas en notre nom. Juste un petit mot sur la version qu'on a entendue du déserteur. C'est une version qui a été un peu atténuée après une censure à l'époque, dans les années 50. 4, je crois, ou parce que à la fin Boris Vian chantait sachez que j'aurai une arme et que je sais tirer. Bien sûr, il y a différentes manières de résister, de s'opposer, et je crois que celle qu'on a choisie en prenant ces trois films, c'est effectivement trois films qui, à mon avis, choisissent le camp de la paix. Qui choisissent la résistance pacifiste, non violente,
intelligente,
mais néanmoins active. Hein, c'est pas, c'est quand même, on se posait la question du terme activiste. En tout cas, c'est des gens qui s'impliquent physiquement, qui participent à des actions, on peut dire quand même, que ça soit les soldats américains qui désertent pour ne pas aller se battre en Irak. Les bénévoles qui accueillent les migrants alors qu'ils risquent des procès, et les juifs qui vont risquer gros en déviant de la parole d'Oxa, du CRIF ou de certaines sommations qu'on leur fait d'être dans ce camp-là. On a beaucoup pris de retard, et pourtant on aurait encore trois extraits vraiment intéressants qu'on aimerait vous faire écouter, c'est mon
lapsus révélateur,
mon lapsus de cinéaste qui est plutôt du côté de l'image d'habitude, mais le son est extraordinaire, je suis en train de le découvrir, c'est magnifique. Donc on vous propose pour cette deuxième partie, enfin qui va être écourtée, mais que Bernadette va lancer, sur laquelle on voulait parler de cinéma militant, cinéma engagé, poser cette question en débat à nos trois réalisateurs et réalisatrices. On va écouter la fin du film de Philippe Borel, qui est effectivement un appel, sans doute, c'est comme ça qu'on l'entend. Il y a quelque chose de militant dans cette façon de finir là-dessus.
On en reparle tout à l'heure.
De la même façon que certains dirigeants communistes ont donné une mauvaise image du communisme, nous sommes en train de voir un dirigeant démocratique donner une mauvaise image de la démocratie. Le problème, c'est qu'on se trompe sur la vraie nature du pouvoir. Nous ne réalisons pas que dans une vraie démocratie, si on a le pouvoir de mettre un élu dans une position de pouvoir, on est plus puissant que cet élu. Alors, au lieu de nous contenter de regarder là-haut, vers Dieu, vers les présidents, regardons en nous-mêmes. Et au lieu de nous contenter de penser ce n'est pas bien ce qu'il fait, considérons que le retournement de pouvoir est inévitable, inévitable. C'est inévitable aussi qu'on écrive ce manifeste de résistance, ce serment de résistance. Il résonnera encore et encore, jusqu'à ce que la vérité finisse par triompher. Rien ne pourra l'en empêcher.
Pas en notre nom. À vous qui guerroyez dans une guerre sans fin, il ne peut plus y avoir de mort, plus de transfusion de sang pour le pétrole. Ce n'est pas en notre nom que vous envahirez des pays, bombarderez des civils, tuerez encore des enfants, en laissant l'histoire multiplier les tombes des sans-grades, que vous bafouerez les libertés en prétendant vous battre pour elles. Les armes ne passeront pas par nos mains. Nous ne distribuerons et ne paierons pas d'armes pour détruire des familles sur un sol étranger. Nous ne prêterons ni nos voix, ni nos cœurs. La peur ne nous fera pas taire. Nous ne permettrons pas que des peuples ou des pays soient considérés comme le mal. Ce n'est pas notre volonté. Ce n'est pas en notre nom. Nous appelons à la résistance.
Donc c'était un extrait du film de Philippe Borel, Pas en notre nom. Et puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a vraiment envie de vous faire entendre les extraits des deux autres films, celui de Muriel, Cravate, on vous propose d'écouter l'extrait de Muriel, je crois que c'est le numéro 7, ou, enfin voilà, où de la même façon, elle nous relaye à nous, spectateurs, spectatrices, l'appel qui est fait par ces bénévoles.
Il y a un an, une patrouille de police poursuivait des arrivants dans la montagne, à l'endroit le plus dangereux du col, sur une falaise de 40 mètres, et ils sont tombés. Il y en a un qui subit encore les séquelles au niveau nerveux, et l'autre qui se remet de ses blessures physiques. Cette semaine, les policiers au col de Montgenèvre ont poursuivi dans un endroit moins dangereux, mais de façon à terroriser au maximum un groupe de 10 personnes. Donc je pense qu'il faut continuer de se battre et se battre de plus en plus pour une ouverture des frontières, pour une suppression des contrôles aux frontières et pour une liberté d'installation pour tous.
La vigilance citoyenne par rapport au comportement de certains policiers et de certains miliciens est très importante. C'est vrai que l'action juridique, judiciaire, elle est longue, mais on l'a entamée et là-dessus notre détermination, elle sera sans faille. Les droits, il faut absolument qu'on les utilise et qu'on aille jusqu'au bout pour les pousser le plus loin possible. Donc on encourage tout le monde à prendre les gens que vous croisez sur la route, à les prendre dans vos véhicules et à les mettre à l'abri et à faire tout ce que vous pouvez. Si on n'ose pas faire ça, on peut aussi. Il y a un tas de gestes tout simples qu'on peut faire. Déjà, aller en montagne et faites tout ce que vous pouvez, aussi bien pour surveiller la police que pour aider nos amis exilés. Voilà.
Donc effectivement, il y a des gens qui se sont mobilisés, qui se sont relayés pour que toutes les nuits, le premier hiver, c'était il y a 2 ans, il y ait du monde sur le col de l'Échelle. Et puis l'hiver dernier, du monde sur le col de l'Échelle et sur le col de Montgenèvre. Et avec des biscuits, du thé, des chaussettes, des bonnets, des gants, des choses toutes simples, toutes normales, comme ça se fait dans toutes les grandes villes, je crois, de France et d'Europe peut-être. Il y a des gens qui amènent de la soupe et des couvertures le soir à ceux qui dorment dehors. Donc pour nous, c'était quelque chose d'assez banal, d'assez simple, qui nous semblait naturel de faire. On s'est heurté à des difficultés, on s'est heurté à une relation à la police, à la gendarmerie, à l'armée, qu'on n'aurait pas imaginé. On a besoin d'être plus nombreux, parce qu'il y a des gens qui se sont épuisés, aux dépens de leur vie de famille, souvent. Donc s'il y a des gens qui ont du thé, c'est-à-dire un thermos, de l'eau chaude et un sachet de thé, éventuellement avec du sucre dedans. Si vous avez des bonnes chaussures, un peu de temps, il suffit simplement de se dire que personne ne mourra chez nous. à côté de nous pendant que nous on dort au chaud dans nos lits. C'est tout.
On vient d'entendre un extrait du film de Muriel Cravatte, Demain est si loin, qui est un appel aussi aux spectateurs à, de la part de ces bénévoles qui accueillent les migrants du côté de Briançon. Et c'est notre envie de... On avait envie de dialoguer, de lancer un débat entre nous, mais qui a déjà un peu commencé tout à l'heure au fil des discussions sur la position des cinéastes qui, moi je le lançais en intro, sont les porte-parole de ces personnes qui s'opposent à des lois injustes, à des politiques inacceptables. C'est du cinéma, ça touche aussi un public de cinéma, et c'est toute la richesse du cinéma qui fait que chaque spectateur ensuite la reçoit personnellement et très souvent au-delà de ce qui est intelligible ou de ce qui est raisonnable, expliqué, ça passe aussi par le sensible, ça passe aussi par quelque chose qui nous touche et qui va petit à petit nous faire bouger.
Je voulais très rapidement rebondir sur deux petites choses, parce que je tiens à le préciser, dans mon film, tout ce que font les bénévoles est dans la légalité. En fait, c'est la loi qui n'est pas respectée, et je trouve que c'est très important de le dire, et ils se battent en fait pour que la loi soit respectée. Et j'ai fait très attention, j'ai fait contrôler le film pour montrer des actions qui sont légales. Et voilà, donc ça c'est très important, je pense, de dire ça. Et après, c'était la question de l'engagement cinéaste en deux mots, pour faire écho à l'extrait qu'on a entendu. En fait, c'est que je pense que chacun, s'il est un peu sensible à une cause, fait avec ses outils. Et nous, cinéastes, nos outils, c'est le cinéma. Et puis, c'est les gens qui sont accompagnateurs en montagne. Ça va peut-être être d'aller à la rencontre des exilés dans la montagne, parce que c'est leur outil, c'est leur compétence. Et voilà, en fait, on peut tous faire chacun avec chacun à sa mesure et avec ses outils. Voilà, c'était juste un petit mot pour...
On va enchaîner.
Je vais ajouter quelque chose à distance que je ne vois pas, donc je ne sais pas qui est sur le point de prendre la parole, qui l'a réclamé le doigt.
Oui, là c'était Muriel qui a réagi.
Pardon, j'ai entendu.
Oui. Et Philippe, toi tu voudrais dire...
Ça pose la question de qu'est-ce qu'être engagé ou militant. En fait, aujourd'hui, il y a une sorte de connotation péjorative accolée à ces mots, à ces termes. Et... en fait, on devrait exercer une passion, un métier. Quand ça correspond, c'est génial. Et en ce qui me concerne, la passion et le métier correspondent avec cœur au service du public qui va regarder ensuite. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le mot militant, engagement, c'est venu de la part de ceux qui ont le pouvoir de décider, de financer, de diffuser certains films ou pas, quelque chose de péjoratif. Et ça pose la question, qui est militant et au service de quoi? Et pour moi, les gens qui sont dans une sorte d'homogénéité sociale à défendre un seul point de vue dominant contre la diversité de tous les autres points de vue, ce sont eux les militants. Sous prétexte de marketing, c'est toujours oui mais ça va pas marcher, on l'a déjà traité, etc. Mais c'est un prétexte. Le militantisme, c'est le leur, celui d'une classe sociale qui dirige. Et pour ça, je prends une anecdote, et ça fait référence à Bourdieu, dans les années 70. Moi, j'ai fait ma première année de Sciences Po à Grenoble. J'étais à l'aise, tout allait bien. J'ai demandé à être transféré à Paris, rue Saint-Guillaume. Et là, pendant 3 ans, 2 ans, ça a été le cauchemar. Je n'avais pas les codes. Il y avait une homogénéité sociale, j'étais mal à l'aise, je préférais, enfin, instinctivement. J'étais pas comme eux. Et c'était essentiellement une classe bourgeoise. Voilà. À Grenoble, il y avait une université. Et ce malaise que j'ai ressenti rue Saint-Guillaume en 1985, 86, 87, je le ressens maintenant à l'échelle de la ville de Paris.
Oui. D'accord. Et je crois qu'effectivement, ça fait 2 fois que notre émission ne réussit pas à traiter le sujet de ce cinéma militant engagé. Donc, on en reprévoira une qui, encore une fois, reviendra là-dessus. Et pour donner une...
Pourtant, ça a à voir, je te coupe, pardon, mais ça a à voir avec le titre de l'émission, avec le titre...
Non, non, mais je dis pas que ça a pas à voir.
Non, ça fait deux fois qu'on voulait traiter la question, Philippe, de l'engagement, et à chaque fois, on est tellement...
On n'a pas le temps.
Mais peut-être que l'engagement, c'est aussi notre regard, tout simplement, aussi. C'est une multiplication de notre regard par rapport à une petite partie du monde, comme on le ressent, comme on le voit, et simplement peut-être de le montrer comme nous, on le ressent, peut-être que ça fait partie d'un engagement pour transmettre à des gens la vision du monde qu'on a ressentie et essayer de la transmettre à d'autres personnes. Et donc ça... Simplement ça peut être considéré comme un engagement. Et si ça marche, je pense que c'est déjà beaucoup par rapport à l'abrutissement global de la société en général. Voilà.
Et si on est plus de 10, attention, ça peut être une insurrection.
Oui, en plus.
Il y a un parallèle à faire avec la malbouffe.
D'accord. Philippe, quand je te coupais tout à l'heure, c'est pour une question de temps uniquement.
Oui, il reste 9 minutes, je vois le compteur devant.
Voilà, mais on voudrait passer l'extrait du film de Daniel, et après on a encore 5 minutes d'annonces et de merci et au revoir.
et puis on a des annonces à faire sur les moments où passent les films, comment retrouver ton film aussi.
Mais, il y a du montage derrière, j'espère.
Non, c'est du direct. Non.
On va exploser le format, c'est ma spécialité.
On va exploser. Non, reste jusqu'à la fin quand même. T'as encore le droit de parler.
Oui. Allez, on lance le troisième.
L'extrait de Daniel avec lequel on avait envie de finir cette émission.
Je pense que l'avenir ne pourra s'envisager que dans un contexte où de toute façon il y a les mêmes droits pour tous. Et ne peut pas s'envisager avec un État qui est vu comme un État ethnique, tu vois, par exemple un État simplement juif. Donc je sais pas si ce sera l'avenir, si ce sera une fédération ou une confédération, si ce sera un État binational, ça je sais pas, ce sera, de toute façon c'est aux gens sur place d'en décider pour eux, mais en tout cas l'avenir ne peut passer à mon sens que par le respect du droit et par l'égalité pour tous.
Il n'y a pas d'autre solution que celle d'un État palestinien côté de l'État d'Israël, d'après moi. Et je pense que c'est après que les liens entre les deux se renforceront et permettront un avenir différent.
Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'inventer une fiction qui change le réel. Mais il faut s'y tenir, de toute façon. Et le spectacle se termine par ce rêve que 5000 jeunes Palestiniens viennent à pied de l'université de Beer Sheva vers Khalandia, et 5000 jeunes Israéliens viennent en même temps, ils se sont mis d'accord par une application, de l'université hébraïque, pacifiquement, au checkpoint de Khalandia, qui sépare Jérusalem de Ramallah, pour traverser le checkpoint, en même temps. Et que les 48 soldats qui sont là ne savent pas quoi faire. Tous les médias ont évidemment été prévenus en avance, sont là, filment tout. Sit-in, il y a des baraques à frites, à pita, shawarma, on bouffe, des tentes qui sont montées, ça dure 5 jours, 5 nuits. Ça ne bouge pas, on ne sait pas quoi faire, personne ne tire. On propose aux soldats qui sont là de rentrer chez eux, et sur les 48, il y en a 40 qui décident de déposer leurs armes et de se mêler aux manifestants. Et il y en a 8 qui rentrent chez eux. Et quelques jours plus tard, il y a une réunion entre l'autorité palestinienne, Hamas, OLP et gouvernement israélien. On décide de
détruire le mur, d'arrêter les checkpoints, et 2 ans plus tard, la fédération d'Israël-Palestine est fondée. C'est possible. Les peuples y auraient tous intérêt. Des deux côtés, ils ne demanderaient pas mieux que ça.
C'est comme ça que nous allons terminer notre émission d'aujourd'hui. On a déjà traité le sujet,
un rêve engagé.
Avec cette note d'espoir. Et nous allons juste vous faire quelques annonces de où voir les films dont on a parlé. Donc Muriel.
Oui, alors moi, mon film, il passe mardi à Paris, donc ce mardi 6 octobre à 21h au Forum des Images. Et il passe vendredi dans le cadre du festival Exil à Briançon, puis beaucoup de projections de débat en novembre et décembre. Vous pouvez avoir toutes les infos, évidemment, nous sommes des gens modernes, sur la page Facebook du film « Demain ici loin ». Voilà, et que dire d'autre, merci beaucoup à Doc de m'avoir invité ici. Et puis un merci particulier à Nadège Jasson, ma productrice qui m'accompagne et qui m'aide à faire vivre ce film.
Pas en mon nom, Daniel Kupferstein, carrément une sortie en salle prévue ce mois-ci.
Oui, le 21 octobre au Saint-André-des-Arts, donc à 13h, c'est pas une heure terrible, mais bon, c'est toujours bien que ça sorte.
Tous les jours.
Ouais, tous les jours pendant jusqu'au 2 novembre, sauf le 27 octobre, je crois, puis après le 10 et 17 novembre. Puis j'ai d'autres sorties, plusieurs en province, j'en ai quelques-unes. Je suis un peu perdu. Mais je sais que je vais y aller, je vais être obligé d'y aller parce que j'adore échanger après ce film. Voilà.
Il y aura un débat tous les jours avec des intervenants différents et toi.
Ouais.
Et juste quand même dire que le 1er novembre est prévu un débat avec des membres d'ADOC où là on va parler de cinéma. Alors que très certainement les autres jours, on va peut-être plus parler du sujet que du film, de sa construction et tout et tout. Donc le 1er novembre au Saint-André-des-Arts à 13h, la séance. Philippe, t'es toujours avec nous ?
Oui, je suis toujours là, je vous écoute.
Alors Philippe, ton film, on peut le voir, on a vraiment de la chance parce que tu très généreusement, tu mets tes films en accès libre sur ta chaîne Vimeo. Et donc je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on l'annonce là pour les auditeurs. C'est https://vimeo.com.
Notez vite.
/ Stylo. Philippe Borel, tout attaché. Philippe
B-O-2-R-E-L.
Sinon,
je tourne avec régulièrement avec le dernier film en date, La Bataille du Libre, en projection débat.
Oui.
Et que sur les 10 films, dont 9 sont en accès libre effectivement sur ma page Vimeo, il y en a 5 qui continuent 10 ans après, comme Un Monde S'en Fout, à faire l'objet de projection débat, ou même pissé par nos jeunes qui datent d'avant et qui va bientôt être projeté aussi dans une médiathèque cinéma, un festival. Voilà.
Eh bien, c'est super. On a vraiment des occasions de voir les films. Juste un mot sur le film de Catherine Richard, Ai-je le droit d'avoir des droits, qui, lui, sort en salle en ce moment au Saint-André-des-Arts. Catherine Richard, qui est dans notre atelier radio et qui nous a aidés à préparer cette émission, mais qui ne pouvait pas être là parce qu'elle est au Saint-André en accompagnant son film. Et puis, toutes les autres infos, vous les trouverez sur le site d'ADOC, addoc.net. Pour toutes les activités que propose l'association. Merci à Radio Libertaire pour nous accueillir pour cette émission. Et merci à Pierre-Emmanuel Vecchirini et Clément Buck pour notre jingle avec lequel nous vous quittons. Et au mois prochain.
À bientôt.
Merci à vous.
Au revoir. Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt.
Nous la chanterons toutes les saisons et jusqu'à la fin de leur société.
Voyant tes remous, tes ressacs, tout au long du quai rectiligne, un moment je t'avais cru digne de m'écouter vider mon sac. Tout comme on parle derrière l'oreille d'un chien compagnon de malheur, quand on n'a pas assez d'oseille pour s'approprier la blondeur d'une fille à la peau bien tendre, qui fait bien semblant de comprendre et vous vend un peu de douceur. J'allais te confier mes alarmes, mes fatigues et mes regrets. C'est bête à dire, j'étais prêt à te grossir de quelques larmes. Contenu depuis trop de jours et d'amertume bien salée, mais ta flotte s'en est allée, insensible, suivant son cours, roulant au pied de l'escalier, tant de mètres cubes à l'heure. T'en fous qu'on vive ou qu'on meure, t'es plus belle qu'un sablier. C'est normal, t'es un personnage, ta place est faite au grand soleil. Les hommes et toi, c'est tout pareil, y'a pas de pitié qui surnage. T'es vaseuse dans ton tréfonds, moi je m'en vais, adieu la scène. Tu sais, avant que je revienne, de l'eau coulera sous tes ponts.
Qui va de porte en porte et de taverne en taverne pour chercher son mari Tirely avec une lanterne. Madame l'hôtesse, mon mari est-il là? Oui, madame, il est là. Il est dans la soupente en train de prendre ses épingles qui relâchent avec une servante. Ah, chien d'ivrogne, retourne à ton logis, t'es là que tu t'emplis, t'es là que tu ripailles, pendant que tes enfants tirelants sont couchés sur la paille. Et toi la belle, aux yeux de Merlan frit, tu m'as parié mon mari, je vais te prendre mesure d'une bonne culotte de peau, tirelot, qui ne craint pas l'usure. Ma
Madame l'hôtesse, apportez-moi du vin, apportez-moi du vin dessus la table ronde. Pour boire à la santé, tu